pistole et pistolet. La pathologie en ces deux mots visiblement identiques et que leurs significations actuelles n'ont rien de commun. Dans les langues d'où ils dérivent, italien et espagnol, ils signifient uniquement une petite arme à feu, et pourtant en français ils ont le sens d'une monnaie et le sens d'un contre-fusil. Autrefois en français, pistole et pistolet se dire comme cela devait être de l'arme portative. Puis la forme diminutive de pistolet suggéra l'idée de donner ce nom aux écus d'Espagne, parce qu'ils sont plus petits que les autres. Et une fois la notion de monnaie introduite dans ces deux mots, l'usage les sépara, ne faisant signifier que monnaie à pistole et carme à pistolet. J'avoue qu'il ne me paraît pas que cela soit bien imaginé. L'italien et l'espagnol ne se sont pas trouvés mal d'avoir conservé à ces mots leur sens originel. Et ici, nous avons fait trop facilement le sacrifice des connexions intimes. Placer. Place, qui vient du latin platea, place publique, est fort ancien dans la langue. Il n'en est pas de même du verbe placer. Celui-ci, à en juger par les textes, serait un néologisme de la fin du XVIe siècle, néologisme fort bien accueilli par le XVIIe, qui a fait très bon usage de ce verbe et qui nous l'a fait léguer complètement constitué. Nul ne sait aujourd'hui quel est le hardi parleur ou écrivain qui le premier hasarda un verbe dérivé de place et destiné à former un auxiliaire fort commode de maître. Si ce verbe s'écrète aujourd'hui, l'Académie voudrait-elle l'accueillir dans son dictionnaire ? Poison. Deux genres de pathologie affectent ce mot. Il n'a jamais dû être masculin, et jamais non plus il n'a dû signifier une substance vénéneuse. Poison est féminin d'origine, car il vient du latin potionem, et toute l'ancienne langue lui a donc constamment donné ce genre. Le peuple est fidèle à la tradition, et il dit la poison au scandale des lettrés qui lui reprochent son solécisme, et auquel il serait bien en droit de reprocher le leur. C'est avec le XVIIe siècle que le masculin commence. Pourquoi cet étrange changement de genre? On n'en connaît pas les circonstances, et on ne s'explique guère, à moins de supposer que poisson vient de poison par la forme l'a attiré à soi et l'a condamné au solécisme. Mais là n'est pas la seule particularité que ce mot présente. Il n'a aucunement par lui-même le sens de venin, et longtemps la langue ne s'en est servie qu'en son sens étymologique de boisson. Toutefois, il n'est pas rare que la signification d'un mot de général qu'elle est d'abord devienne spéciale. C'est ainsi que dans l'ancienne langue, enherbé, qui proprement ne signifie que faire prendre des herbes, aurait reçu le sens de faire prendre des herbes malfaisantes, d'empoisonner. Semblablement, la poison, qui n'était qu'une boisson, a fini par ne plus signifier qu'une sorte de boisson, une boisson ou une substance toxique a été mêlée. Puis le sens de toxique empiétant constamment, l'idée de boisson a disparu de poison. Et le nom s'est appliqué à toute substance, solide ou liquide, qui, introduite dans le corps vivant, y porte le trouble et la désorganisation. Potence. Pour montrer la pathologie de ce mot, je suppose que le français soit aussi peu connu que les Lozend, et qu'un érudit, recherchant dans un texte le sens de ce mot, procède comme on fait dans le Lozend ou là où les documents sont absents, par voie d'étymologie. Il trouvera, avec toute raison, que potence veut dire puissance. Nous voilà bien loin du sens de gibet qu'a le mot. Mais comment faire pour le retrouver? Suivons la filière que l'usage a suivie. Fière, capricieuse sans doute, mais réelle pourtant. L'ancien français, se prévalant de l'idée de force et de soutien qui est dans potence, s'en servit pour désigner un bâton qui soutient une béquille qui aide à marcher. Maintenant, pour passer au sang de gibet, on change de point de vue. Ce n'est point une idée, c'est une forme qui détermine la nouvelle acception. Et le gibet, avec sa pièce de bois droite et sa pièce transversale, est comparé à une béquille. Et il faut laisser la responsabilité de tout cela à l'usage, qui, ayant gibet, n'avait pas besoin de faire tant d'efforts pour s'engager dans un bizarre détour de signification. Poulaine. Ceci est un exemple de ce que je nomme la dégradation des mots. Au XIVe siècle, la mode voulait que les souliers fussent relevés en une pointe d'autant plus grande que la dignité de la personne était plus haute. Cette pointe était dite poulaine, parce qu'elle était faite d'une peau nommée poulaine, et poulaine, en notre vieille langue, signifiait Pologne et de Pologne. Comme on voit, rien n'était mieux porté. Sa chute a été profonde en passant dans le langage des marins. Ils désignent ainsi, dans les navires, une saillie en planche située à l'avant, sur laquelle l'équipage vient laver son linge et qui contient aussi les latrines. Tout ce que le mot avait d'aristocratique a disparu en cet usage vil. Il n'y est resté que la forme en pointe, en saillie. Préalable. Nous n'avons guère de plus mauvais mot en notre langue, dit Vaugelas, qui ajoute qu'un grand nom prince ne pouvait jamais l'entendre sans froncer le sourcil, choqué de ce que Allable entrait dans cette composition pour « qui doit aller ». Ce grand prince avait bien raison, mais que voulez-vous? Ce malencontreux néologisme avait pour lui la prescription. Il paraît avoir été forgé dans le cours du XVe siècle. Du moins, on trouve à cette date préalablement. Le XVIe siècle s'en sert couramment. Il est visible que ce néologisme était tout à fait fait d'une pièce, je veux dire qu'il n'existait point d'adjectif allable auquel on aurait ajouté « pré ». De cette façon, « préalable », formé d'un verbe supposé « préaller », est moins choquant qu'un adjectif allable tiré d'aller contre toute syntaxe.